De retour à notre émission, alors on va avoir un peu plus de données cette fois-ci, parce qu'il y a déjà des études qui ont été réalisées à l'UQAR, notamment on en discute avec le chercheur Christian Fraser qui est avec nous. Bonjour.
Et bonjour.
J'aimerais qu'on regarde, entre autres, des chiffres qui sont sortis d'une de ces études où on parle de l'accélération du niveau de l'eau, surtout depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'auparavant, l'évolution était moins rapide.
Oui, effectivement, on a évalué avec différentes méthodes l'évolution des niveaux d'eau depuis plusieurs siècles et on se rend compte qu'il y a une accélération récente de la hausse du niveau marin. Donc, il n'y a aucun doute que le niveau marin est en hausse, mais là, à l'intérieur de ces données-là, on a détecté une accélération de la hausse.
Et même du côté de Rivière-Ornard, parce qu'on a des équipements qui sont là. Parlez-nous de ce cas-ci précis, parce que c'est chez nous, c'est à côté. Donc, on voit là qu'il y a des augmentations importantes. Depuis 16 ans, on peut parler de quoi? 10, près 9 cm d'augmentation.
Oui, exactement. Dans le fond, en fait, on étudie chaque marégraphe un peu partout dans l'Est, là, dans l'Est du Québec et dans les Maritimes. On remarque là, que sur une moyenne historique, on avait, par exemple, à Rivière-Ornard, une augmentation de 1 mm par année. Et dans les 15 dernières années, si on peut dire depuis 2000, on est au-dessus de 5 mm par année. Donc, il y a une nette accélération de l'augmentation du niveau marin.
Et si on se projette dans le temps, on va se rendre où avec ça?
Bien, en gros, depuis une centaine d'années, on peut dire que le niveau marin a augmenté d'environ un pied. Et on croit qu'avec la tendance actuelle, qui n'est pas nécessairement une tendance nécessairement exponentielle là, dans le futur, mais de toute évidence, il y a une accélération et on croit que ça va probablement doubler en vitesse. Donc, si on a eu un pied d'augmentation depuis un siècle, bien, on va projeter un pied d'augmentation d'ici une cinquantaine d'années.
Alors, on comprend que lorsqu'il y a maintenant des tempêtes depuis les années 2000 là, qui brisent la côte, d'érosion des berges ou submersion des berges, on commence à comprendre un peu plus pourquoi. Là. Donc, c'est ce niveau d'eau qui ne cesse d'augmenter, bien, lorsqu'il y a des tempêtes, ça paraît.
Mais effectivement, la même tempête qui a pu avoir lieu il y a 50 ans, bien, la même tempête qui a lieu aujourd'hui, bien, il y a, on peut dire, une augmentation. Le niveau d'eau est plus haut qu'avant. Donc, de toute évidence, les vagues sont capables d'aller chercher plus de terrain et à inonder plus de terrain le long du littoral.
En chiffres pour la Gaspésie, lorsqu'on parle de chez nous, la côte, là?
Ça, c'est issu de notre suivi. Depuis une quinzaine d'années, là, on fait un suivi de la côte à chaque année. Donc, on a plusieurs stations de mesure de l'érosion côtière. Donc, on y retourne à chaque année pour prendre des mesures. Et on fait aussi des relevés là, au niveau des bâtiments. En Gaspésie, il y a un 60 % des côtes que l'on considère comme actives, donc qui sont affectées par l'érosion côtière. Et on retrouve un 39 % des côtes qui sont affectées par la submersion côtière, donc des côtes basses là, qui risquent d'être submergées lors d'événements importants.
Vous parlez des bâtiments. Tout à l'heure aussi, on révèle dans votre étude qu'il y a quand même plusieurs bâtiments qui sont à risque en Gaspésie.
Oui, en Gaspésie, on compte un 868 infrastructures, donc qui inclut différents types de bâtiments, qui se retrouvent à moins de 15 mètres de la ligne de rivage. Il y a aussi les routes. On suit les routes aussi en lien avec le ministère des Transports en bonne partie. En Gaspésie, pour les routes, là, on suit annuellement 92 km de routes qui sont donc à l'intérieur d'une bande de 15 mètres. Et on a aussi un 17,5 km de chemin de fer. Donc, on a un suivi annuel.
On a vu aussi les dernières tempêtes qui étaient très fortes. Celle du 30 décembre est toujours dans la tête des gens, là. Et aussi du 16, parce qu'il y a eu des routes qui ont carrément été coupées en Haute-Gaspésie. Celle du 30, même phénomène, des bâtiments abîmés. Quelles sont les pistes de solution pour pouvoir atténuer cette érosion côtière ou submersion côtière?
Il y a plusieurs pistes envisagées et chaque secteur a sa propre... Il y a une analyse spécifique pour chacun des secteurs. Donc, il n'y a pas une solution identique partout ou la bonne solution qu'on pourrait appliquer partout. Et il n'y a pas non plus une mauvaise solution qu'on devrait proscrire nécessairement partout. Donc, nous, il va vraiment système côtier par système côtier. Et effectivement, il y a des secteurs qui sont déjà touchés annuellement. Et donc, de toute évidence, dans le futur, on ne pourra pas soutenir des impacts à chaque année. Donc, oui, il y aura assurément des tronçons de route déplacés, des bâtiments qui seront déplacés. Et par contre, à d'autres endroits où on voit qu'il y a une possibilité, dépendamment du système, il y aura des possibilités soit en enrochement, soit en ensablement, ou en différents systèmes de brise-lames, par exemple, essayer de travailler à casser la vague là, avant qu'elle vienne frapper la ligne de rivage.
Vous connaissez la route 132 tout le long de la Haute-Gaspésie, entre Sainte-Anne-des-Monts, Anse-Pleureuse. Ça a été coupé à plusieurs reprises. Est-ce qu'il faudrait déplacer cette route ou il y a des moyens de briser les vagues avant qu'elles n'arrivent? Comment vous voyez ça?
Oui, mais c'est pas la première fois qu'on me pose la question. Puis l'idée d'une voie de contournement qui rentre dans les terres, il peut communiquer avec les villages, c'est sûr que c'est pas impossible. Mais ensuite, c'est une grande analyse de coûts. Est-ce que le fait de travailler à réparer la route annuellement, est-ce que c'est plus coûteux ou moins coûteux que d'envisager une voie de contournement? Et donc, tout ça, c'est des questions que moi, je n'ai pas la réponse, mais on travaille avec le ministère des Transports à décortiquer là, ces systèmes côtiers-là. Et je crois que dans les prochaines années, là, on va être de plus en plus à même là, de prendre des grandes décisions pour ce secteur-là, parce que effectivement, c'est un des gros cas dans l'est du Québec, là, la route 132 dans le nord de la Gaspésie.
Bon, et est-ce qu'on pourrait se voir aussi dans l'obligation de déplacer des populations? Parce qu'il y a des endroits où on ne pourra peut-être pas justement arrêter ce phénomène.
Absolument. Il y a des endroits où, quand vous dites des populations, c'est surtout des petits quartiers ou certaines sections de route là, qui sont plus viables ou que c'est pas possible. Ça s'est déjà fait. Il y a plusieurs tronçons routiers là, dans l'Est du Québec qui ont été déplacés. Et il y a quand même, cas par cas, surtout depuis la tempête en 2010, là, il y a quand même eu plusieurs relocalisations. Des personnes qui ont eu beaucoup de dommages et qui ne se sont pas reconstruites, qui ont même déplacé la maison ou détruit la maison. Donc, je crois que pour l'instant, avec le gouvernement du Québec, les démarches en cours, c'est plus du cas par cas. Mais probablement que dans l'avancement de l'analyse et du travail avec les populations locales concernées, éventuellement, il y aura peut-être des décisions communes, des choix qui seront faits pour dire, bon, mais tel quartier, ce 5 ou 10 maisons-là en bloc, pourrait éventuellement être déplacé au lieu de lutter à protéger le littoral.
Le cas de Percé aussi, c'est souvent ramené parce que ce sont eux qui sont frappés beaucoup dans les dernières tempêtes. Est-ce qu'on pourra protéger le village, le centre du village de Percé? Parce que là...
Le cas de Percé, il y a déjà des solutions envisagées. Disons qu'au niveau de Percé, l'analyse des solutions, ça fait quand même plusieurs années là, que des groupes s'y penchent. On y a contribué beaucoup... Et il y a même des équipes là, en ingénierie et des groupes conseils qui ont fait carrément des propositions là, pour des propositions d'ensemblement, de réensemblement. Et oui, je crois que c'est possible parce que la raison pourquoi ça frappe fort présentement, c'est que la plage est presque inexistante devant l'ancienne promenade. On peut parler de l'ancienne promenade maintenant qui est brisée. Donc, mais par contre, lorsqu'il y avait une plage de sable et de galets à cet endroit-là, l'énergie des vagues était plus atténuée. Donc, l'idée derrière la proposition d'ensemblement, c'est de retrouver une plage sur laquelle les vagues pourraient dissiper leur énergie et empêcher de causer des bris là, plus haut. Donc, c'est assurément possible. Ça n'empêchera pas qu'il va y avoir des tempêtes et ça n'empêchera pas que les vagues vont quand même monter haut sur la plage.
Est-ce que des récifs aussi accompagnés avec tout ça pourraient aider? De faux récifs qu'on pourrait placer?
Ah oui, dans le fond, c'est sûr que toutes les fois qu'on cherche à travailler, à changer l'énergie de la vague, c'est plus gagnant que de travailler sur la ligne de rivage. Historiquement, on a toujours ou presque travaillé là où la côte recule sur la ligne de rivage. C'est à cet endroit-là qu'on fait un enrochement, un mur, une protection. Et par contre, ces infrastructures-là ont des conséquences sur la plage et sur les zones adjacentes. Par contre, lorsqu'on travaille sur la plage ou sur le bas de plage et même sur l'avant-côte, à tenter de briser la vague, à tenter de changer la dynamique qui fait que la ligne de rivage recule, déjà en partant, on est plus gagnant, on va travailler avec la dynamique du milieu. Parce que les infrastructures qu'on a mis en place beaucoup au Québec, on le constate à plusieurs endroits, ne fonctionnent pas comme on le souhaite. Et l'impact au niveau de la plage est grand parce que plus on augmente la réflectivité, donc plus les vagues frappent fort sur une structure, plus le matériel de la plage s'éloigne. Donc, il est transporté par les vagues. Et donc, d'année en année, comme on a vu à Percé depuis 40 ans, d'année en année, la plage s'est abaissée au point de complètement disparaître par endroits.
Monsieur Christian Fraser, donc chercheur à l'UQAR, merci pour cet entretien et tous ces détails.